Est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivé à l'agriculture?
J'y suis arrivé tout petit. J'avais un grand-père agriculteur dans la Marne. Après, c'est mon tonton qui a repris. Donc, j'ai connu les moissons depuis tout petit. Et l'élevage, je m'y suis mis vers mes 18 ans. J'ai fait un BTS agroalimentaire et j'ai fait un stage dans une fromagerie d'une abbaye dans le Morvan. Le fromage, j'ai découvert vraiment pendant ce stage-là. Et puis parce que c'était ma formation, il fallait que j'aille dans l'agroalimentaire, mais comme l'industrie, ça me plaisait pas, je me suis dit qu'une petite fromagerie artisanale, c'était bien. Alors je me suis installé en 2004. Je suis installé avec trois autres associés. Et on transforme le lait de nos chèvres et de nos vaches, la totalité.
Donc en fait, quand tu t'es installé, tu as cherché à avoir un modèle économique où tu étais indépendant et où tu pouvais être en parallèle d'une production où tu vendais le lait aux filières, etc. Tu as fait en sorte à contourner ce schéma-là et tu as cherché à inscrire un modèle différent.
Je dirais qu'on a choisi quand même une production qui est très liée à ce mode de distribution, hein. Donc moi j'ai démarré où je faisais que de la chèvre avec Cécile, ma chérie. On était sur des tout petits volumes, donc c'était vraiment le choix, c'était de vendre sur les marchés, quoi. Et en local, je dirais que maintenant c'est notre choix, ouais. On produit du fromage pour nourrir les gens qui sont autour de nous, quoi. Et je pense que ça devrait être vrai pour toute production, quoi. Je pense que c'est l'avenir.
Alors, est-ce que tu peux me parler de la culture paysanne?
Alors, l'agriculture paysanne, oui, c'est une agriculture qui est vraiment liée à son territoire, hein. Paysanne, ça vient de pays. Donc, c'est un peu l'étymologie. Ma famille n'est pas du tout là-dedans. Quand mon oncle était installé céréalier, donc mon grand-père devait être, je sais pas, sur une cinquantaine d'hectares, donc la surface que j'exploite moi en ce moment. Mon oncle était sur 100 et maintenant ma cousine est sur 300. Donc, eux, ils ont plutôt pris la filière industrielle, hein, donc céréales sur les marchés internationaux, etc. Alors après, par contre, quand j'ai fait ma formation et que j'ai été apprendre le fromage dans le monastère, eux, ils avaient vraiment déjà cette vocation d'agriculture paysanne, hein. Ils produisaient l'alimentation de leurs bêtes, ils vendaient en local, etc. En bio, même avant que le label AB existe, c'était des labels régionaux, donc en 92, c'était des précurseurs même.
Ça, c'est quelque chose que tu connaissais pas et que tu as découvert dans ce cadre-là?
Ouais, ça m'a vachement marqué comme expérience. Et là, après, j'ai fait d'autres rencontres avant de m'installer et qui m'ont convaincu que c'était le modèle que j'allais faire, quoi.
Et le fait que toi, tu pratiques cette culture paysanne, comment réagit ton oncle, par exemple? Quels sont vos échanges à cet endroit-là? Est-ce qu'il
Ah.
comprend ce que tu fais? Ou est-ce qu'il te prend pour quelqu'un de très singulier dans sa démarche ou pas? Est-ce qu'il a la mesure de ça?
Non, 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 il me prend pas pour quelqu'un de particulier parce que il se rend bien compte que c'est une agriculture qui marche. Après, je pense que lui, par contre, ce qu'il croit pas, c'est qu'il pourrait changer son modèle et passer à faire, je sais pas, des céréales transformées en farine ou en pâte et vendre ça dans des circuits locaux. Ça, je pense qu'il s'imagine mal le faire. Alors que ça marche, hein. J'ai quelques exemples que je connais, mais.
Est-ce que tu peux me donner les grandes lignes de ce que vous vous défendez ou de vos engagements, de vos valeurs là-dedans? C'est quoi qui est important pour vous aujourd'hui dans ce que vous faites et comment vous le faites?
Qui nous a réunis en fait tous les quatre, c'était un partage des connaissances de chacun. Parce qu'on est quatre personnes très différentes, on a trouvé chacun notre place au sein de la ferme. On a vraiment des rôles très diversifiés et on se retrouve, quoi. On se complète bien, ça marche bien. Après, ça emmène aussi qu'il faut savoir partager le revenu. Donc il faut en dégager un suffisant à partager à quatre. Même quatre, un peu plus de quatre parce qu'on a un salarié. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile quand même. On s'est tendu les mains, quoi, je dirais. Et ça continue maintenant. Et je pense que dans le monde agricole, c'est bien, quoi, de pas se laisser enfermer, et encore plus dans le monde de l'élevage, parce que les animaux, c'est des êtres vivants. Il faut s'en occuper tous les jours, être près d'eux. Et tout seul, même à deux, c'est compliqué, quoi. Donc là, on est quand même quatre, c'est bien.
Donc c'est quoi vos valeurs? C'est la solidarité?
Ouais.
Le partage?
C'est ça.
L'échange des connaissances? Et une économie viable?
Enfin... C'est ça, ouais. Et puis après, on essaye de faire ça. Alors, donc ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, social du truc, quoi. Et puis après, bah, on fait ça aussi pour le but premier d'un paysan, c'est de nourrir les gens. Donc j'ai bien dit nourrir, hein, pas les empoisonner. Donc on essaye de faire ça bien, quoi. Le but du jeu, c'est d'être autonome en alimentation. Donc tout ce que mangent les chèvres et les vaches, c'est produit sur la ferme. Donc on fait ça sans apport de produits chimiques, sans pesticides, donc en système bio.
Est-ce que tu penses que cette agriculture-là, elle est viable même à une échelle plus grande?
Alors c'est la limite de la bio, en fait. On pourrait faire de la bio en étant... j'aurais pu être patron de l'ensemble de la ferme et puis avoir 3 salariés payés à coup de pompe dans le derrière. Voilà, donc la bio, c'est, ça n'a pas d'aspect social du tout, hein, c'est juste une technique culturelle. Donc pas de pesticides, pas d'antibiotiques. Et encore, il y a des dérogations possibles, là on peut surfer un peu sur la vague.
Et le rapport que tu as, enfin que vous avez sur les marchés, ce lien social, est-ce que c'est des temps importants, les marchés, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? Vous sortez de la ferme et où, même s'il y a des gens qui viennent à la ferme acheter du fromage, c'est quand même un temps fort dans votre semaine, ces temps de marché.
Ah bah c'est le lien social, enfin c'est l'ouverture au monde. Puis des fois, on a des choses aussi un peu magiques, tu vois. Ça nous est déjà arrivé d'avoir une fabrication, ça ne tente pas. Tiens, c'est bizarre, ça nous a fait un truc complètement différent. Ben, on ne va pas les jeter ou les manger tous, quoi. Si on a 10 gros fromages, donc on les vend, on explique. Puis des fois, on en entend parler pendant encore 2-3 ans. Quand est-ce que tu te gourres? Quand est-ce que tu nous fais un truc magique ou... voilà.
Il y a des bons accidents, en fait.
Oui, il y a des bons accidents, ouais, c'est ça.
Et est-ce qu'il y en a des mauvais?
Ouais, ça arrive
également.
Aussi, ouais. Voilà.
Et les mauvais accidents, c'est quoi? C'est lié à des bactéries qui arrivent? C'est lié à...
Ça peut... Oui, ça peut être dû à des bactéries, ça peut être dû à des virus, parce que le fromage chope des maladies aussi, qu'on appelle des phages, hein, qui tuent les bactéries lactiques, et du coup, ben, on ne peut pas faire de fromage. Donc on a des trucs bizarres. Et des fois, on sort des trucs... bon, ça finit en fromage fondu, ou... voilà. On perd rarement la camelote, quand même, j'avoue.
Tu as rencontré Elsa, ça devait être en 2013-2014, pour un premier projet de fromage.
On a dû commencer les premiers essais vers 2012 dans le labo. Elle a dû commencer à venir
D'accord.
me voir pour faire des petits crottins, orange, rose.
D'accord, voilà. Pour les couleurs. Tu es le maître fromager. C'est la seconde fois que Elsa te sollicite pour un projet de ce genre.
Troisième. Premier projet qu'on a fait ensemble, c'est des pyramides multicolores.
Et après, c'était le
fromage de
poule. Qu'est-ce qui te plaît dans sa démarche à Elsa?
Je crois que c'est Elsa en elle-même, en fait. C'est quelqu'un qui est... Ouais, elle est douée pour motiver les gens, rassembler, et à la fin, ça fait des beaux projets.
Et dans le fait que toi, tu expérimentes des fromages, c'est quand même quelque chose, en tant que fromager, que tu continues à expérimenter aussi. Enfin, quand tu dis il y a des beaux accidents, je veux dire, t'es quelqu'un aussi qui
aime
surpris aussi par ta propre matière.
Enfin, j'avoue que là, la démarche avec Elsa, ouais, ça va me permettre d'essayer d'autres choses. Et du coup, ouais, là, c'est une bonne occasion de m'amuser et de faire des choses sympas avec d'autres gens, quoi. Qui, eux, auront peut-être des idées et que je vais être obligé de trouver comment faire.
Donc ça, c'est quand même quelque chose, même si vous êtes contraint par une production aussi pour vivre, il y a quand même de votre part ce désir de pousser toujours plus loin cette matière-là.
Ouais.
Ouais. Et
bah
donc
ouais.
Elsa permet ces parenthèses-là dans le temps qui vous est imparti et de bousculer aussi peut-être... Enfin, on ne peut pas bousculer les caves d'affinage, mais...
Ça permet de faire... c'est bien. Ouais, on va s'amuser un peu.
Est-ce que ça t'a des fois contraint ou ouvert des possibles?
J'ai appris des choses, notamment sur la coloration du fromage. Après, c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que commercialement, c'est compliqué, je pense. Mais ouais, non, on a fait plein de tests. On s'est rendu compte qu'en fonction de certains fromages, les colorations ne donnaient pas du tout la même chose alors qu'on avait la même base au début, quoi. Enfin, les mêmes colorants. Et on s'est rendu compte aussi, par exemple, en fonction des affinages, que les colorants, au début, c'était comme c'est des colorants naturels à base de végétaux, donc par exemple, comme le poivron qui est assez fort, on le sentait au début, mais avec l'affinage, le chèvre est tellement fort qu'il reprenait le dessus de son poivron. Donc ça, c'est nos petits trucs à nous, avec Elsa, et ouais, c'est marrant. Ça, c'est marrant.
Donc là, tu t'embarques dans un fromage très grand. C'est un des plus grands fromages que tu vas réaliser de tout ce que tu as fait jusque-là.
Alors, c'est une technique que j'ai déjà essayée avec les moyens du bord. Et donc là, avec Lucas, on devrait réussir à faire un fromage quand même un peu plus grand que ce que j'ai fait. Voilà, après, j'aurais voulu l'avoir encore plus grand, mais bon, on peut pas toujours tout faire dans la vie. Mais je pense qu'on va faire un truc bien, ouais.
Est-ce que tu peux me parler de ton rapport au temps dans ton travail ? Parce que ça marche avec les saisons. Enfin là, aujourd'hui, là, c'est l'hiver, donc c'est une période particulière parce qu'il va y avoir les mises bas. Comme il y a les mises bas, il y a moins de production.
Et ben, on fonctionne avec la nature. En fait, on suit les saisons. Donc, chèvres et vaches, naturellement, mettent bas plutôt au printemps, quand il y a à manger dehors, pour élever leurs petits. Donc on attend là 90 chèvres qui vont mettre bas, on a une vingtaine de vaches. Et donc c'est vraiment le début de l'activité, on va remplir les caves pendant le printemps et l'été. On va commencer les récoltes de fourrage, de céréales. Et puis arrivé à l'automne, on commence à avoir la période de reproduction pour les chèvres. Et puis là, ben, on a une chute du lait, donc on a une chute de notre activité aussi. Puis en hiver, il n'y a pratiquement pas de lait, donc on a vraiment un ralentissement de l'activité, on en profite pour faire autre chose.
Alors, est-ce que vous arrivez à partir en vacances en famille ?
Alors, depuis notre association avec Cédric et Lucie, nous arrivons à partir une semaine chacun. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme pour des éleveurs. Et en été en plus, hein, donc tout va bien. Après, quand on a besoin de s'organiser, on arrive à se débrouiller, à se prendre une journée voilà, pour venir parler d'affinage avec au Bazar Naoum, par exemple. Voilà, ça, c'est jouable.
Ça, c'est une grande liberté dans ce métier.
Ouais, ouais, on pourrait croire qu'on a une grosse contrainte de temps, mais en fait, non, on a une contrainte du vivant parce que c'est des animaux. Mais comme on est plusieurs, on y arrive, quoi. Et puis comme on aime tous aller les voir, ben, ça ne nous dérange pas d'y aller. Quoi. Donc le matin, je vais les voir une heure, mais après je peux être tranquille toute la journée. Et ouais, je suis content d'aller les voir une heure.
Est-ce que vous faites des temps de sensibilisation à la ferme ? Vous ouvrez la ferme régulièrement pour montrer comment ça fonctionne, ou faire des ateliers, ou
alors,
peut-être des portes ouvertes, il me semble.
Oui, on fait des portes ouvertes. Ouais. Donc ça, on en fait, ouais, je dirais, au moins une tous les deux ans. Des fois, ça peut arriver qu'on en fasse deux dans l'année. Et sinon, ouais, on est ouvert tout le temps, quoi, en fait. On reçoit pas mal de stagiaires. Alors, c'est souvent des demoiselles. Voilà, ou sinon, on travaille avec des ITEP aussi. Donc, les gamins, ils viennent découvrir une semaine, une journée, des fois seulement. Ça leur fait du bien. Donc, ouais, on prend un peu de temps pour... Voilà. C'est nos petites pierres.
D'accord. Écoute, je crois que moi, j'ai fait le tour. Maintenant, on va se donner rendez-vous sur un prochain temps dans le cadre du collectif d'affinage.
Ouais, ça marche. Ça a du sens.